Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous revenons sur les autorités intérimaires, un sujet qui reste d'actualité étant donné que la loi y afférente est toujours diversement appréciée. Les réserves de l'opposition en a, elle qui avait d'ailleurs demandé à ce que la Cour constitutionnelle se prononce sur la question. Mais voilà, la Cour vient de se rejeter donc la requête de l'opposition. Alors, quelles conséquences pourrait donc avoir cette décision de la Cour constitutionnelle? Quelles seront les prochaines étapes pour le processus de mise en application de la loi? L'opposition et la majorité vont-elles pouvoir se comprendre à présent? Ces interrogations, nous allons les partager avec nos invités. Ils sont au nombre de trois: Firoun Maïga de la plateforme, le colonel Idriss Amaha de la CMA qui sera en ligne, et Maître Abdramane Touré, analyste ici présent dans ce studio. Ce débat vous est présenté par Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
La requête déposée par l'opposition auprès de la Cour constitutionnelle par rapport à la loi relative aux autorités intérimaires a été rejetée, la Cour ayant donc validé la loi en question. Que pensez-vous de cette décision de la Cour constitutionnelle? Nous allons poser la question en premier lieu à vous, Firoun Maïga de la plateforme.
Oui, bonsoir. Moi, je pense que l'opposition était dans son droit. Dans un régime démocratique, vous avez la majorité au pouvoir, ceux qui exercent les affaires et ceux qui sont à l'opposition, ils ont leur appréciation. On ne peut pas s'immiscer dans les questions politiques, nous, en tant que plateforme, mais ce que nous pouvons dire, c'est que si la Cour constitutionnelle a rejeté, c'est en tout droit, en fonction de ses analyses, et je ne peux pas m'interférer sur ça. Nous constatons effectivement que les doléances qui ont été présentées ont été suivis des faits et nous nous réjouissons de ça.
Alors, j'espère que le colonel Idriss Amaha, qui n'est toujours pas en ligne, mais il sera dans un instant. Nous sommes de retour donc dans le studio. Nous allons donner la parole à l'analyste Maître Abdramane Touré. Maître Abdramane Touré qui va donc se prononcer sur cette décision de la Cour constitutionnelle qui a validé la loi relative aux autorités intérimaires.
Merci M. Fomba et bonsoir à tous les auditeurs du studio Tamani. Donc comme Firoun l'a dit tout à l'heure, nous sommes en plein exercice démocratique. Il est du droit de l'opposition de porter une action devant qui de droit lorsqu'elle pense chaque fois que la norme adoptée viole la Constitution. Et moi, dans le fond, je n'ai pas lu la requête de l'opposition, je n'ai pas vu non plus l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais des éléments que j'avais retenus depuis le début de cette opposition de vue entre l'opposition et la majorité, je me suis toujours dit que la loi, en tout cas en son article 1, le projet de loi en son article 1 voté, ne me paraissait pas du tout contraire à la Constitution. Les deux arguments principaux qu'on avait avancés, pour moi, ce n'est pas des arguments qui violent du tout la Constitution. Le premier portait sur la soumission des questions relevant du domaine de politique économique et sociale à l'avis du Haut Conseil des collectivités avant de voter la loi. Et le second portait sur la question de la libre administration des collectivités territoriales. Moi, je pense que la mise en place des autorités intérimaires n'est pas une question qui relève du domaine de la politique de développement économique des collectivités, encore moins une question relative à la protection de l'environnement. Mm-hmm. Et en ce qui concerne la libre administration, pour moi, elle n'a pas du tout été violée et la Cour, selon moi, a pris une très bonne décision.
Alors, nous avons quelques difficultés à joindre le colonel Idriss Amaha de la CMA, mais j'espère que tout va rentrer dans l'ordre dans un instant. Nous restons donc dans ce studio pour poser cette question à vous, Firoun Maïga. Quel sera, selon vous, donc l'impact de la validation de la loi relative aux autorités intérimaires sur les débats en cours au niveau de la classe politique?
Bon, moi je pense que l'exercice démocratique en veut ça. Je pense que en démocrate, comme on le dit, il faut savoir reculer pour mieux citer. Je pense que le débat politique doit continuer. L'intérêt supérieur de la nation malienne doit être préservé. Et je me dis aussi que, quels que soient les positionnements de la mouvance gouvernementale ou l'opposition, je pense que le Mali traverse une crise assez aiguë qui commande le bon sens des uns et des autres, que ce soit du côté gouvernement et que ce soit aussi de l'opposition, pour essayer de voir comment nous pouvons essayer de juguler cette menace, qui est d'autant une menace qui ne dépend pas totalement des circonstances que vous savez, pour lesquelles nous sommes ici devant votre, dans votre studio, mais qu'il y a d'autres acteurs aussi qui regardent le paysage politique et qui essaient de placer aussi leurs pions. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas seulement l'opposition, la majorité, le gouvernement qui peuvent définir. Il y a d'autres acteurs et il y a aussi la volonté de la communauté internationale à trouver une solution à ce problème. Donc beaucoup de facteurs convergent et qui font que, bon, il faut que nous sauvons le Mali.
Dites-nous, vous, maître Abdramane Touré, les débats par rapport donc à cette loi, la loi relative aux autorités intérimaires. Alors, ce débat va-t-il évoluer avec cette décision de la Cour constitutionnelle?
Bien sûr, le débat va évoluer et il va falloir s'attendre dans les jours à venir à beaucoup de débats et de mouvements, parce que cette loi, dans sa version validée par la Cour constitutionnelle, ne fait pas d'exception en ce qui concerne la mise en place d'autorités intérimaires sur le territoire national. Que l'on soit à Kaï, Diboli ou à Kidal, les autorités intérimaires seront mises en place selon les mêmes règles, elles auront toutes les mêmes attributions et les panels dans lesquels les membres des autorités intérimaires seront choisis sont les mêmes. Donc c'est une loi d'application nationale valable sur l'ensemble du territoire national. Là où le problème va se poser maintenant, c'est la mise en œuvre des prescriptions de l'accord, notamment en son annexe 1, qui disait que le cas échéant, les organes des autorités des collectivités territoriales seront dirigés par l'État et les parties signataires, c'est-à-dire les groupes armés, la plateforme et la coordination. Maintenant que cette loi à dimension nationale ne prévoit pas de possibilité, en tout cas, de nommer, n'est-ce pas, ou de désigner les membres des autorités intérimaires par les groupes armés, comment faire maintenant pour faire passer cette idée de cet accord-là? Parce que la loi, dans l'article 2 du projet qui est tombé, ça avait été une possibilité. Mais avec cet article 1 simplement voté, donc il n'y a pas possibilité de parler de représentants de groupes armés, en tout cas de manière formelle. Cette loi ne donne pas cette possibilité et ce qui va poser beaucoup plus de problèmes, c'est la découverte d'une convention subsidiaire 001 entre la coordination et la plateforme, qui était vraiment une convention qui était subsidiaire, je pense, à l'accord, qui procédait à une forme de partage des organes des collectivités entre l'État et les groupes armés dans les régions du Nord. Maintenant, la logique de cette convention, maintenant, comment la mettre dans le cadre de cette loi qui ne fait pas de différenciation, qui ne laisse aucune place aux spécifications? Ça, c'est vraiment le gros problème que le gouvernement aura entre ses mains. Et l'opposition, je pense, ne va pas lâcher le morceau, d'autant plus qu'ils ont cette convention subsidiaire, pas signée, mais paraffée. Donc ça va être vraiment un gros problème auquel il faudrait trouver des solutions.
Nous avons à présent en ligne le colonel Idriss Amaha de la CMA. Dites-nous, monsieur Amaha, alors, vous l'avez appris, la requête déposée par l'opposition auprès de la Cour constitutionnelle a été donc rejetée. Il s'agit bien sûr de la requête qui concerne la loi relative aux autorités intérimaires. Alors, quelle lecture faites-vous de cette décision de la Cour constitutionnelle?
Écoutez, moi je pense que c'est tout simplement, ça dépend. Je vous remercie déjà de m'avoir invité. Je remercie aussi les frères qui sont là, maître surtout Aruna, le grand frère à moi, et qui est quand même l'un de ces hommes-là qui sont là à lutter pour l'unité de ce pays-là. Et mon frère Maïga aussi qui est là. C'est que moi je veux juste dire que maître Aruna est encore mieux placé à défendre ces problématiques et parler de ce sujet-là que moi, en réalité, qui n'est pas à Bamako aujourd'hui. Mais je pense évidemment que c'est tout simplement naturel. Hein. Vous savez que les mouvements, la plateforme et la CMA ont toujours respecté l'accord, et je pense pas que les vraies problématiques, en réalité, historiquement, c'est pas la CMA et la plateforme que la faute ne vient pas de ces mouvements-là, ça vient du gouvernement qui n'a pas été poser le sujet sur le plan juridique déjà avant de signer ce papier-là. Et je pense que aujourd'hui on est vraiment ravis d'essayer d'avancer un peu par rapport à ce qui se passe dans notre pays, qui est quand même très très important et c'est dommage. Je pense que les gens doivent vraiment s'unir et ne pas vraiment sortir de cette de l'union nationale, parce que aujourd'hui on met du feu partout, côté d'ailleurs mouvement, on fait ce qu'on peut, mais côté opposition, ils sont malheureusement en train de mettre de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, qu'on soit avec le gouvernement ou pas avec le gouvernement, on ne doit pas attiser les problématiques entre les Maliens. Au contraire, on doit verser de l'eau sur la braise pour essayer d'unir ce pays-là qui quand même est en cas de danger si jamais on ne trouve pas une solution par rapport à cette histoire des autorités intérimaires au nord.
Firon Maïga, je crois que vous voulez réagir.
Oui, je comprends. Je reviens sur ce qu'a dit le spécialiste Maitouré. Je vais juste vous ramener en arrière que lors de la signature de l'accord Alger, tous les débats qui nous ont amenés à ça, pour fondement, nous sommes des mouvements issus de la société civile. Nous nous exprimons au nom de nos communautés que nous représentons et nous voulons une nouvelle façon de voir, une nouvelle gouvernance, une prise en compte de nos réalités, une gestion partagée du pouvoir au niveau local, ainsi de suite. Un certain nombre de facteurs ont été déterminants dans ça. Donc, je ne pense pas, comme on l'a dit, que les mouvements aient négocié avec le gouvernement. Cela puisse donner augure à dire que nous avons gagné une partie du pouvoir, mouvement SEMA plateforme, et que cela veut dire la SEMA, la plateforme, le gouvernement ont partagé le pouvoir et que chacun a une entité de décision. Non, je pense que nous nous référons à ce que nous savons culturellement et qui sont les fondamentaux dans ce pays de droit, puisque ce texte de loi, comme l'a dit Maître, créer des cadres et donne des orientations très claires. Le gouvernement aussi, je pense, remplira les conditions. Tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est aux communautés de prendre leurs responsabilités dans cette période intérimaire. Nous la voulons pourquoi ? Parce que nous voulons un nouveau modèle de gouvernance locale. Il faut que les communautés demain ne disent plus c'est l'État malien, c'est X, c'est Y, c'est eux-mêmes. Et je pense que cet apprentissage pendant ce temps qui a été donné, ce délai, permettrait à l'ensemble des acteurs politiques de la société, de la nation malienne, de comprendre qu'ils ont des responsabilités. Je crois qu'il faut voir ça sous cet angle, ne pas le voir c'est ma plateforme gouvernement, ce serait un peu dévier effectivement le bien fondé du combat à mener la plateforme et la SEMA. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le ramène au niveau central. C'est pour les populations, c'est à elles d'exprimer. Et comme la convention même le dit, les autres le disent, ce n'est pas nous qui allons désigner X, Y sur une liste pour donner au gouvernement de signer. Non, c'est aux populations de s'exprimer.
Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La validation de la loi relative aux autorités intérimaires par la Cour constitutionnelle, c'est donc le sujet du débat de ce mercredi. Pour en parler, nous avons trois invités, à savoir Firoun Maïga, la plateforme ici présente dans ce studio, Maître Venturé, analyste également présent ici et en ligne, le colonel Idriss Amaha de la CMA. Alors, Firoun le disait tout de suite. Alors, dites-nous maintenant, Maître, il semble quand même que la place des collectivités, des populations à la base est très importante dans ces processus qui concernent donc le soutien intérimaire.
Ben, nous sommes tous parfaitement d'accord, mais ce qu'il faut rappeler simplement dans cette situation, c'est que la régionalisation telle que préconisée par l'accord est comme solution à cette crise que le Mali connaît depuis les années 60, théoriquement c'est une bonne chose. Mais je vais revenir simplement sur la loi adoptée par la Cour constitutionnelle, la loi déclarée valide par la Cour constitutionnelle, et que le combat de ceux qui ont dit que cette loi est anticonstitutionnelle, leur peur va au-delà de la simple inquiétude textuelle. Leur inquiétude vraiment, c'est des questions de terrain, c'est des questions de réalité. Et parce que dans la logique initiale, en tout cas, du projet de loi à travers ces deux articles qui étaient en cours, et certaines parties des régions du Nord ont laissé entrevoir que les autorités intérimaires s'installeront de manière systématique partout. Donc les populations et certains relais, en tout cas les élus de ces populations. Et certains partis de l'opposition ont estimé que cela ne peut pas être fait dans un pays quand même dit démocratique. Substituer pratiquement les représentants de groupes armés aux organes élus, même là où ça marche, donc il y avait des points de clarification à ce niveau. Je pense que même avec la validation de cette loi, cette inquiétude de terrain fondamental subsiste encore. Parce que les conseils des collectivités communales qui existent au Nord, ils ne savent pas maintenant comment le gouvernement va mettre en œuvre ce texte validé. Est-ce que ça procédera toujours de l'idée de la convention subsidiaire qui consiste à répartir les conseils communaux de cercles et de régions entre les différentes parties en donnant un quota à la plateforme, un quota à la coordination et à l'État. Donc les populations demeurent inquiètes. Et certains partis politiques, à juste titre également, demeurent inquiets aussi sur cette mise en œuvre de ces autorités intérimaires. Mais ce que je pense personnellement de cette situation, c'est que nous avons une crise. Et tout le monde a dit que cette crise, elle est séculaire, elle est très ancienne. Et si vous regardez l'accord même au niveau du titre 1 sur les questions politiques et institutionnelles, le chapitre 2 nous dit « pour un règlement durable du conflit ». Ils ont préconisé ce qu'on appelle une conférence d'entente nationale. Parce qu'on a laissé croire au monde entier que le Mali est scindé, le Mali est touché par un conflit intercommunautaire dans le Nord. Donc pour qu'on mette en place quelque architecture institutionnelle que ce soit, pour qu'on mette en place quelque organe, quel que soit, même si c'est intérimaire, il faut au minimum organiser cette conférence d'entente nationale pour qu'on puisse parler réellement de la vraie problématique des régions du Nord, pour qu'on puisse savoir est-ce que effectivement les communautés se rejettent, est-ce que effectivement les discriminations, les exclusions, est-ce que tout ça c'est des facteurs réels que les populations parlent entre elles et qu'elles se comprennent. Après, maintenant, on va mettre en place des organes intérimaires, l'architecture institutionnelle et tout ce qui s'ensuit. Donc pour un règlement durable du conflit, il faut nécessairement qu'on passe d'abord par la conférence d'entente nationale avant de mettre en place quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je pense, et je pense que c'est ce qu'il faut voir. Si vous regardez même l'accord depuis le préambule, il nous dit d'abord qu'il faut qu'on s'entende sur le terme Azawad. Parce que dans les régions du Nord, qui sont considérées comme étant des parties de l'Azawad, tout le monde n'est pas d'accord. Donc on organise la conférence et qu'on pose le vrai problème. Qu'on sache vraiment qui est qui, qu'est-ce que l'Azawad, est-ce qu'elle a cette dimension politique institutionnelle reconnue dans l'accord, est-ce que nous sommes vraiment azawadiens, est-ce que nous souscrivons au combat des groupes armés qui parlent en tout cas qui prétendent parler en notre nom. Donc tant qu'on ne fait pas cette conférence d'entente nationale, un règlement durable du conflit, pour un règlement durable du conflit, nous continuerons toujours à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire la charrue avant les bœufs.
Alors, nous reviendrons un peu plus tard sur le problème de conférence, en fait, disons, la notion de conférence d'entente nationale. Mais avant cela, nous allons donc tenter de joindre le colonel Idriss Amaha de la CMA. Alors, dites-nous, colonel, partagez-vous les inquiétudes exprimées par l'opposition et citées ici par Maître Touré?
Ben, écoutez, moi, je pense que Maître Touré a dit ce qu'il faut, d'ailleurs, par rapport à ces gens-là qui pensent que les autorités transitoires sont à la limite des étrangers qui vont gérer les régions normalistes, ce qui n'est pas une réalité. Que ça soit de l'opposition à la limite, pourquoi pas, et que ça soit du gouvernement ou des mouvements plateforme SEMA, ces gens-là, ce qu'il faut rappeler quand même aux Maliens, que c'est des Maliens, c'est des gens du terroir. Mais je reviens à ce qu'il vient de dire Maître, c'est que les gens doivent revenir en réalité et se concerter. Concerter, c'est quoi l'Azawad? Est-ce que l'Azawad est une identité politique ou une région parmi toutes les autres régions maliennes, comme beaucoup de régions maliennes? Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça soit l'Azawad, le Kénédougou, le pays d'Ogon, le Sangoy ou autre, beaucoup de tiroirs chez nous au Mali, ce sont des Maliens qui vont gérer cette transition, ce n'est pas des étrangers. On n'arrête pas de marteler, ils sont des indépendantistes, des gens qui vont séparer le pays, ce n'est pas une réalité. Aujourd'hui, comme dit Maître Touré, nous, on n'a pas de problème communautaire. C'est que tous les régimes avant ont essayé de taper les Maliens les uns contre les autres pour qu'eux, ils restent centralisé à Bamako, et pour faire une carte d'identité ou un passeport, on vient de Kidal ou de Kaï pour la faire à Bamako. Aujourd'hui, je pense que si on va vraiment vers une réelle régionalisation ou une vraie décentralisation, les gens doivent s'autogérer dans les régions du Mali, que ce soit dans le nord, le sud, comme le centre. Les Maliens ne doivent pas avoir peur de ces de ces gens-là. C'est des gens, c'est des Maliens. C'est, je veux dire, sur le plan d'autorité transitoire, ce sont des Maliens, qu'ils soient du nord ou du sud. Il y a un quota du gouvernement. Ben moi, je comprends ce que vient de dire Touré par rapport aux gens qui sont déjà, qui administrent déjà sur place les autorités dans les régions du nord. Mais ces gens-là peuvent rester à leur place si les populations sont toujours pour ces gens-là, qu'ils soient de la plateforme, qu'ils soient de la CEMA ou du gouvernement. Et on ne doit pas avoir peur, en réalité. Ce sont des Maliens qui vont gérer leurs tiroirs. Voilà.
Retour dans ce studio, nous allons nous tourner maintenant du côté de Firoul Maïga de la plateforme. Alors, dites-nous, Firoul Maïga, les inquiétudes exprimées, ça et là, au sujet donc de cette loi, sont-elles toutes sans fondement?
Oui, vous savez, moi je comprends, j'ai laissé des inquiétudes que Maître a soulevées, je comprends ça, je comprends les inquiétudes de l'opposition, aussi de la partie gouvernementale. Nous sommes dans une période de mutation, alors le changement, on le connaît culturellement, nous l'acceptons difficilement. Nous avons hérité d'un régime colonial à l'époque qui a vraiment ses fondamentaux classiques. Et aujourd'hui, nous avons besoin, effectivement, comme les autres pays, pour essayer de voir, permettre aux populations eux-mêmes de se redéfinir, de dire, bon, il faut aller vers d'autres changements. Et c'est ça le changement. Ce que je veux juste dire, ce qu'on a dit dans l'accord, effectivement, la mise en place des autorités transitoires pour les nouvelles créations de région, pour la région de Taoudéni, la région de Menaka. Il y a de nouveaux cercles qui ont été créés, il y a de nouvelles communes qui ont été créées. Ben là, il faut quand même mettre des autorités, parce que l'État n'a pas d'autorité, des élections n'ont pas mis, on ne peut pas essayer de caler un système qui peut permettre. Il faut aller à des autorités intermédiaires. Je pense que ça. Mais on a dit aussi dans les régions du Nord, ce n'est pas toutes les communes, et comme on le dit, qui vont aller avec des autorités intérimaires. Là où ça fonctionne, on constate, on le laisse. Là où on sent qu'il y a des faiblesses parce que cette commune n'a pas pu marcher depuis la crise 2012 jusqu'à aujourd'hui, il faut trouver un palliatif et dans un cadre consensuel, on met en place une articulation permettant de mettre une gouvernance saine sur place. Et je pense qu'il n'y a pas assez de peur. Maintenant, ce qui est le problème, quand le politique redéfinit et voit cette façon de faire dans son élan politique parce que les partis politiques cherchent le pouvoir, chacun essaie de regarder sur quoi il peut s'asseoir, s'appuyer pour gagner le pouvoir. Alors on se rend compte que, bon, je comprends, il y a de la peur, il y a de la panique. Quel est le parti politique aujourd'hui qui est en mesure de dire, bon, puisqu'il y a une commune dans la région de Taoudéni, de telle commune, qu'est-ce que je veux faire pour essayer d'implanter un parti ou bien autre chose si je ne passe pas par un mouvement? Mais non, les mouvements ne sont pas là pour faire, la main tendue ou bien pour être le prolongement d'une initiative politique, que ce soit un parti ou même le parti au pouvoir. Non. Je pense que la réalité, c'est de laisser les communautés en toute indépendance, dans un cadre légal, comme il l'a dit, de dire nous sommes une nouvelle commune, nous n'étions pas avant régis comme ça, et aujourd'hui, pour que nous puissions travailler ensemble, il faut voir quel est le modèle d'association que nous allons avoir pour que cela puisse se faire pour une période déterminée. Ils vont organiser des élections, et je pense que les futurs responsables qui sortiront des élections futures, qui viendront après la période transitionnelle, seront légitimement reconnus et acceptés. C'est sous cet angle que moi je voudrais amener les gens à comprendre. En tout état de cause, l'idée que les mouvements sont en train de tirer quelque chose derrière, oui, c'est des mouvements qui se reconnaissent de cet espace, c'est des mouvements qui s'expriment en toute liberté, même à l'accord de Ouaga, ils ont dit leur point de vue, qui est légitime. Et je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir est allé dans ce sens-là et c'est une avancée significative. Positivons. Et je pense que les Maliens sont forts parce que nous avons un soubassement fort. Un Arabe de Taoudéni, un Touareg de Menaka, un Senoufo de Sikasso, si vous les rencontrez, vous ne trouverez pas. Et ce que je vous dis, vous partirez à Sikasso, vous partirez à Taoudéni, vous trouverez des Koulibaly, des Keïta, des Sidoussous qui sont bien intégrés parce que le brassage, le mariage a fait que nous sommes là. Et la question d'exclusion, de racisme, de stigmatisation, je pense qu'aujourd'hui, nous devons le combattre. Je pense que l'idée aujourd'hui, c'est d'avancer. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un engagement. Les mouvements se sont engagés politiquement et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent assumer leurs responsabilités en créant un cadre sécuritaire, en accompagnant le gouvernement et en se disant, nous sommes dans un Mali indépendant, unis et nous devrons faire notre travail. Et je pense que nous n'allons pas déroger à cette mission-là qui nous a été donnée. Maintenant, en toute démocratie, chacun est libre d'analyser en fonction de ses... Mais comme l'a dit Maître, il y a des textes de loi qui doivent être respectés de tous. La première responsabilité incombe au gouvernement de faire observer effectivement la réalité de ces textes et la respectabilité de ces termes. Et de pouvoir le faire, comme l'accord le dit, dans un cadre consensuel pour mettre quelque chose ensemble et qui ne défie pas effectivement l'ordre constitutionnel comme il le dit. Mais c'est un défi. Nous ne pouvons pas, par une baguette magique, aujourd'hui dire qu'on va résoudre ce problème-là.
Maître Abdelham Touré, qui souhaite donc réagir?
Oui, enfin, moi je suis parfaitement en harmonie avec Léné Firoun lorsqu'il affirme que ce qui doit être fait, c'est de vraiment laisser les populations elles-mêmes désigner les personnes de leur choix pour quand même diriger le dispositif de pilotage des collectivités à quelques niveaux que ce soit. Et donc cela procède d'une forme de liberté de choix, d'une démocratie saine. Mais sauf que ce qu'il y a dans la Convention subsidiaire qui est annexée, en tout cas qui circule, c'est que on est un peu loin de cette logique quand même d'expression libre de notre volonté, parce que cette convention dite subsidiaire procède à un partage carrément, parce que quand on voit il y a des quotients, lorsque les autorités intérimaires comprennent 12 membres, 4 sont désignés par le gouvernement, 4 par la plateforme, 4 par la coordination, ça veut dire déjà que il y a quelque chose de formel et de décidé en amont. Je ne vois pas vraiment comment les populations vont pouvoir dérouler ce droit quand même, de cette liberté de choix de leurs représentants dans le cadre de ces autorités intérimaires.
Dites-nous, Maître Touré, cette convention subsidiaire, alors c'est un document qui a été rendu public?
Non, c'est un document qui circule. Il n'est pas signé, comme je l'ai dit au début, mais c'est un document qui est simplement paraffé. S'il s'avère vraiment, il est paraffé sur toutes les pages, s'il s'avère vraiment que ce document est réel, ça c'est inquiétant, parce que les signataires, il y a la plateforme, la coordination, la médiation, l'aménagement, l'Union africaine, etc., etc. Donc toutes ces organisations et ces parties sont citées sur la dernière page. Et je le répète, c'est un document qui est paraffé, mais pas du tout signé.
Paraffé, donc un document officiel, Maître Touré?
Je ne peux pas dire qu'il est officiel parce qu'il n'est pas signé encore. Donc la source même reste à vérifier. Mais s'il est vrai que ce document a existé et qu'il a été paraffé, en tout cas par les parties prenantes qui sont citées au titre de ce document, ça conforte l'idée et l'inquiétude des personnes qui consiste à dire que la mise en place d'autorités intérimaires dans la mentalité des groupes armés procède simplement pour eux de la première étape de la mise en œuvre de la régionalisation. Ça, c'est des inquiétudes qu'on entend par-ci, par-là, parce qu'on se dit, pour les groupes armés, peut-être dans leur entendement, là on est dans les hypothèses, c'est la première pierre de la régionalisation qui commence, parce que quand on est aux commandes des affaires, on a de fortes chances d'y rester. Et si vous ajoutez à cela également la logique même de la négociation depuis Alger 1, 2, ce qu'on avait dit aux groupes armés, si j'ai bonne mémoire, c'est que leurs revendications sont de nature politique, donc il serait intéressant qu'ils essaient de se battre sur ce plan. Donc certains voient quand même ce partage des autorités, si vraiment le document s'avère vrai, comme étant une première phase de la mise en place de cette régionalisation. C'est une inquiétude aussi qui demeure.
Alors, Firoun Maga, rapidement, avant qu'on donne la parole au colonel de Rue.
Oui, juste, c'est une inquiétude si réellement les gens, peut-être ceux qui ont négocié, peut-être il faut rentrer dans leur courant. Vous savez, il y a dans ces zones qui vont être concernées, vous avez des autorités, vous avez des communautés qui se réclament d'une partie et d'une autre. Vous avez des communautés de la SEMA qui se revendiquent la SEMA, vous avez des communautés qui revendiquent la plateforme. Alors, il y a cet équilibre. Il y a un troisième acteur qui est le gouvernement. Tout le monde se réclame du gouvernement d'une partie, tout le monde défie le gouvernement de l'autre partie. Et nous avons pensé que cet équilibre permet au gouvernement de mieux négocier et d'être justifié, de mieux justifier sa position. Je donne juste un exemple. Dans une commune où c'est la plateforme, par rapport à sa vision républicaine, parce qu'il faut comprendre effectivement comment est-ce qu'elle est arrivée aux accords, quelle est sa vision, et les populations qui soutiennent la plateforme, quelle est leur vision? Est-ce que c'est une vision séparatiste ou une vision républicaine? Et je pense qu'elle est républicaine. Et je pense que le gouvernement est dans une logique aussi républicaine. Et je pense que la SEMA, elle est républicaine, même si elle défend des intérêts. Donc nous avons pensé que ces espaces d'expression au niveau local permettent d'équilibrer. Et dans les avantages des négociations, le gouvernement peut tirer la part des choses. Si le gouvernement fait son sont bons de négociation, de logique avec la CEMA ou la plateforme, c'est elle qui va tirer les cartes parce que de toutes les façons, tout le monde revient au gouvernement. Et ce qu'il faut encore dire, c'est que les populations, à la base, ne sont pas dupes. Ce n'est pas parce qu'on est de la plateforme ou on est de la CEMA qu'on peut s'imposer sur elle comme on le veut, parce qu'il y a quelque chose. Non. Je pense que ces autorités vont être accompagnées par le MOC, le mécanisme opérationnel de sécurité, qui va garantir la libre expression, l'accompagnement et la mise en place réelle de ces autorités. Ce n'est pas des mouvements qui vont être. Donc, de plus en plus on avance sur ce terrain, de plus en plus les mouvements deviennent fragilisés, parce qu'il y a le cantonnement qui va suivre, il y a le processus qui va être là, vont rester sur le terrain, l'État malien, le mécanisme opérationnel de part d'autres plateformes, ainsi de suite, et la communauté internationale qui vont suivre. Donc comprenez qu'effectivement, nous sommes partis de cette base. Et je pense qu'aujourd'hui, le Malien lambda, qui comprend effectivement, parce qu'on est quand même malien très politique, dans des espaces d'expression tels, je pense que le Mali a tout à gagner. Il suffirait juste de savoir ça. Mais n'est pas la peur, je dis encore, de penser qu'en étant quelque part aussi loin et de pouvoir imaginer que c'est là la solution n'est pas. Je pense que ces populations sont responsables. Elles sont maliennes. Elles veulent leur propre... comme Sigasso le veut, comme Kaï le veut, ils veulent participer. Peut-être que pour eux, ils n'ont jamais participé. Mais ils se rendront compte par la suite qu'en fait, cet exercice, ils ont eu l'habitude de le faire. Peut-être par personne interposée, mais aujourd'hui, c'est eux qui vont l'assumer. Mais je tiens juste à vous dire que au fur et à mesure qu'on avance, vous allez vous rendre compte que les mouvements vont être de plus en plus fragilisés parce que vont apparaître des autorités qui vont s'afficher et qui vont argumenter en fonction de leurs propres intérêts. Pas les intérêts, ni de la plateforme, ni autre chose. Ce qui n'exclut pas qu'il y a toujours des calculs derrière. On ne peut pas le dire, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de la CEMA et de la plateforme. Mais dans le jeu politique tel qu'on le définit, les calculs ne sont pas interdits. Il faut savoir se positionner pour mieux calculer. Et ça, c'est un débat. Et je vous assure que au nord, que vous prenez les communautés arabes ou Touareg ou Sonraï, c'est des fins politiciens. Mais la notion de l'État central, la notion de l'État du Mali, de son intégrité telle que ça a été signé, n'a pas encore bougé de Niota. Mais il y a des facteurs qui peuvent déstabiliser quelque chose. Et ça, nous devrons tous nous rassembler pour donner la bonne information, la bonne communication et pour avoir des responsabilités et faire des signaux qui donnent la confiance aussi. Voilà, il y a des facteurs sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir amener ça. J'étais un peu plus loin.
Je crois que nous allons joindre le colonel Idrissa Maha de la CMA. Dites-nous, colonel, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de questionnements. On évoque ce qu'on appelle une conférence d'entente nationale. Dites-nous, cette idée, est-ce que c'est une idée qui doit être mise en application? Est-ce que cette question de conférence nationale est à vos yeux quelque chose d'important?
Tout à fait. Je pense qu'elle est vraiment primordiale pour la nation malienne aujourd'hui, dans ces difficultés où on est, qu'on vit aujourd'hui. Je reviens un peu à ce qui vient de dire Pérone. Les mouvements, que ce soit la plateforme ou la FEMA, on sent en voie de disparition si on respecte l'accord. Ils reviennent à l'État, ces mouvements. Ça ne serait pas FEMA plateforme pendant toute la vie. Ils vont disparaître dans l'État. Ce sont des branches de l'État aujourd'hui qui ont certainement signé des accords à l'étranger, mais qui sont dans l'intérêt de la nation malienne si jamais l'accord avance et qu'on le respecte point par point. Aujourd'hui, le Mali a besoin d'aller vite dans l'accord pour unir ses forces, unir son armée, faire des patrouilles mixtes, sécuriser la population du Nord comme du Sud. Il n'y a pas que le Nord qui souffre. Il y a des villages à côté de Bamako, il n'y a pas d'eau. Comme Kaï, comme Taoudeni, comme ailleurs. Il faut régner la peur. Il faut que les politiciens parlent la réalité aux Maliens. On n'arrête pas de faire peur aux Maliens pour qu'ils se tapent dessus et que les politiques qui gèrent mal ce pays-là restent dans leur fauteuil et vivent, or qu'il y a des Maliens qui crèvent la dalle. C'est plus possible. On doit être, si on est vraiment dans un état de droit, tous les Maliens doivent s'autogérer dans les régions, dans un pays uni et fort. Et il faut arrêter de penser que les mouvements vont exister, parce qu'ils sont en voie de disparition et on le saurait si l'accord est bien respecté. Et je vais aussi revenir un peu sur le pouvoir au Mali. On a toujours été géré par des gens qui ne sont pas responsables, qui sont en train d'attiser la haine entre les Maliens. On n'a pas de problème de communauté au Mali. On a un problème gouvernement malien, population quelque part dans le nord ou comme dans le sud.
Vous voulez parler d'un problème de gouvernance en réalité?
Exactement. On est mal géré. On a toujours été gouverné par des gens qui sont corrompus de A à Z, du plus grand au plus petit. Moi, je le dis, hein, c'est plus possible. On ne peut pas être dirigé par une famille dans une république de droit. C'est pas possible. Les Maliens doivent s'autogérer à l'intérieur comme à l'extérieur des régions. On doit aujourd'hui trouver une solution et aller vers un gouvernement d'union nationale. Il faut aller vers l'opposition si on veut unir ce pays-là. Il ne faut pas avoir peur des mouvements. Allons vers tous ces gens-là. Le chef de l'État doit prendre sa responsabilité et trouver une solution et aller vers un gouvernement d'union nationale. Mouvement, opposition et gouvernement. C'est ça que les Maliens veulent. Revenons vers les vrais problèmes des Maliens, c'est le chômage. Ce sont des jeunes, des milliers de jeunes qui sont à Bamako, dans la rue, qui vendent avec un courage incroyable. On a des milliers de femmes et d'enfants dans la rue de Bamako. On a des régions lointaines de Bamako où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Or, on est l'un des plus riches pays d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas possible. Il faut que le gouvernement prenne la responsabilité et qu'on a des gens qui sont capables de diriger ce pays dans un état de droit.
Alors, nous revenons dans ce studio. Alors, un document a été évoqué tout à l'heure. Le document, on l'appelle une convention subsidiaire. Alors, c'est Maitouré qui en a parlé. Alors, vous, Firoun Maïga, vous en avez non seulement entendu parler, mais certainement que vous en avez une copie.
Bien sûr, j'ai une copie. J'ai une copie de ce document. J'ai suivi effectivement les négociations. Mais je pense que c'est un document que nous avons, on a négocié, mais comme on le dit. Oui, moi je le dis, hein, le gouvernement, les partis se sont retrouvés, ils ont réfléchi, nous avons vu qu'il y a des problèmes dans l'accord. Et puisqu'on nous a demandé la mise en œuvre de l'accord doit se faire de manière consensuelle, le gouvernement ne pouvait pas prendre une décision pour dire que je vais fixer des garde-fous et des lois et venir nous les imposer. On a dit non. Vous donnez vos argumentaires, nous apportons nos argumentaires, nous voyons de manière consensuelle qu'est-ce qui peut être fait. Et je pense que ce schéma qui a été dessiné a été mûrement réfléchi parce que nous savons que quelque part, nos mouvements, nous n'avons pas le contrôle total sur les populations, qu'ils sont libres de leur propre expression et qu'ils sont foncièrement attachés à leur pays, le Mali. Le Mali dans sa diversité. Donc, quand vous regardez le document, c'est vrai, on a dit 4-4 parce que dans les communes où il faut des nouvelles créations, il faut une répartition. C'est ce que j'ai dit au début. C'est vrai, on ne peut pas dire au Mali, par exemple, disons au gouvernement, vous allez prendre la totalité comme on le fait, c'est l'accent qui va le mettre. Beaucoup de facteurs de blocage, vous le savez, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, existent. Comment amener les populations à s'exprimer positivement pour que l'agenda politique que le Mali veut prendre en termes de décentralisation et en termes de gouvernance locale puisse être mieux lisible, plus lisible, je peux dire. Et je pense que là, il faut une certaine collaboration intacte. Et moi, je pense que nous avons accompagné ce processus avec une certaine souplesse, avec une largesse. Le gouvernement a joué son rôle, parce que c'est le rôle de leader. C'est le gouvernement qui a la responsabilité de la mise en œuvre. Mais toutes les fois qu'on doit l'accompagner, nous devrons l'accompagner avec honnêteté, avec franchise. Mais je retiens encore, et je le redis encore, nous ne pouvons pas, en tant que mouvement, nous substituer aux populations pour dire que nous avons pris les armes, nous avons combattu pour des idées à leur faveur, et qu'aujourd'hui, si c'est à eux de s'exprimer, qu'on leur dise « vous n'avez pas ce droit ». Je pense que ce serait contradictoire. Et je sais que si ces autorités se mettent en place, au fur et à mesure, les mouvements vont disparaître. Parce que le cantonnement l'exige. La période intérimaire telle qu'elle a été dit, c'est une nouvelle gouvernance. Les acteurs politiques des mouvements qui veulent aller faire de la politique doivent se desservir de tout ça et aller dans le courant politique, aller faire leur jeu politique. Ce n'est pas interdit, c'est des Maliens à part entière. Donc, je me dis, c'est quelque chose qui a été... Peut-être que ce n'est pas parfait parce que vous avez soulevé des inquiétudes qui sont pertinentes. Et je pense qu'aujourd'hui, d'autres aussi peuvent voir. Mais c'est quoi ? On a dit l'accord doit être mis ensemble, mis en œuvre de manière consensuelle et qu'on enlève les stéréotypes, les préjugés. Nous sommes dans un pays uni et je pense que la volonté des trois parties à aller vers cet apaisement est affichée.
Mais Firoun Maïga, que répondrez-vous à ceux qui disent, ceux qui pensent que cette convention subsidiaire consacre quelque part la partition du pays?
Bien sûr, on peut le dire. Moi, je peux dire qu'en 1963, on a créé les conditions de la partition du pays. Voilà. Les rébellions successives ont créé les conditions de la partition du pays. Le pacte national, si elle avait été appliquée dans ces conditions, on le sait. Parfaitement, je suis un acteur. J'ai, du début jusqu'à la fin, nous avons alerté, nous avons dit, nous avons pensé. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue de dire, nous avons commis des erreurs, nous avons commis des déviations. Mais aujourd'hui, nous avons le courage d'affronter la réalité en face et de dire, voilà les problèmes réels, voilà ce que nous allons dire. Mais à 99%, nous sommes un pays musulman. La tolérance, elle est de mise. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens se réfléchissent sur un Mali uni, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous sommes aussi engagés pour combattre le sous-développement et l'insécurité qui pèse sur tout le monde, que ce soit à Kidal, que ce soit à Sikasso, ainsi de suite. C'est des problèmes récurrents qui sont là, c'est des défis majeurs de tous les jours qu'on doit affronter et on ne peut pas le faire. Ni la plateforme, ni la SEMA ne peuvent s'arroger le droit de dire qu'ils peuvent amener la sécurité dans les régions du nord, forturer le gouvernement de dire qu'ils peuvent amener aujourd'hui, dans l'état actuel, la sécurité et la quiétude, la protection des personnes sur l'ensemble du territoire. Il faut un accompagnement. Il faut un sursaut national, mais il faut aussi avoir confiance au mouvement et de dire que leur engagement sur ce truc-là doit être perçu et accompagné.
Maître Touré.
Bon, ben, moi j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Notre ami de la CMA qui se trouve à Kidal, lorsqu'il a dit par exemple qu'il n'y a pas de problème communautaire au Mali, et moi je suis vraiment aux anges, ça me fait énormément plaisir d'entendre ça, parce que pendant longtemps on a laissé croire que le Mali est un problème où des problèmes communautaires existent, d'où la nécessité d'aller vers une conférence d'entente nationale. Donc ça veut dire simplement que s'il n'y a pas de problème communautaire, bon, cette conférence d'entente nationale, elle a été prévue. Bon, elle sert à quoi? Il l'a dit. Le vrai problème, c'est un problème de gouvernance. Donc, il y a une certaine partie, quand même, il y a une certaine catégorie de Maliens qui se sont rébellés contre l'État du Mali, mais pas une communauté contre une autre communauté. Donc, à partir de là, la chose s'est embrasée. Et si on veut aller maintenant vers la paix, on doit commencer vraiment par s'asseoir et parler entre nous. Ce que Firoun a dit tout à l'heure, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Et c'est un homme très très sage. Lorsqu'il nous dit que les groupes armés n'ont pas vocation à se substituer aux populations, je l'entends. Je suis parfaitement d'accord. Et si on dit ça et que de l'autre côté aussi, on fait une convention à travers laquelle on partage simplement les places et les postes de désignation des membres, je pense qu'il y a quelque chose et son contraire en même temps. Une idée très simple, peut-être de manière naïve, les groupes armés ont pris des armes pour le bien-être des populations, en pleine démocratie. Pourquoi ne pas laisser cette autorité intérimaire être désignée comme c'est prévu dans l'article 1 de la loi qui a été votée sur rapport du représentant de l'État dans la commune, dans le cercle, dans la région. Donc voyez-vous, pour moi, on peut donner la possibilité aux citoyens de choisir entre eux-mêmes leurs représentants qui vont diriger les autorités intérimaires pendant cette phase intérimaire, sans pour autant que ces membres soient désignés par les groupes armés. L'inquiétude, c'est que l'irruption des groupes armés dans la politique qui fait effectivement peur. Donc en communautarisant, parce que les groupes armés sont pratiquement ethnicisés. Et lorsqu'on est dans une république, moi je pense que la république procède simplement de l'indifférenciation entre les groupes ethniques, la race et tout ce qui s'ensuit. Malheureusement, on est en train d'aller de plus en plus vers la communautarisation, ce qui n'est pas bon pour la république que nous prétendons tous défendre.
Alors, nous allons donc accorder la toute dernière minute au colonel Idriss Amara qui se trouve à Kidal, il est de la CMA. Alors, le mot de la fin, colonel.
Le mot de la fin, moi je pense que les Maliens doivent saisir, il faut qu'il aille vers l'unité nationale, il faut qu'il verse de l'eau sur la braise et rappeler que les Maliens sont des Maliens qui soient du nord, du centre ou du sud. Et la seule chose, le vrai souci des Maliens aujourd'hui, c'est le développement. Il faut aller vers un pays de droit dirigé par des gens capables à amener du bonheur aux Maliens. Je vous remercie infiniment.
Voilà, je vous remercie, colonel Idriss Amara. Je rectifie, vous êtes plutôt à Kidal. Je rappelle que vous êtes de la CMA. Remercions.
Je préfère rectifier, je suis à Tombouctou, pas à Kidal.
Voilà, justement, je disais que vous n'êtes pas à Kidal, vous êtes plutôt à Tombouctou. C'est donc rectifié. Nous remercions beaucoup Firoun Maïga de la CMA qui a fait le déplacement. Nous remercions également Maître Abdelmane Touré qui est un analyste. On le remercie pour sa disponibilité. C'est donc la fin de cette émission à la mise en onde, nous on dirait. Ah, je dois encore rectifier, donc c'est plutôt... Nous avons Firoumaïga, merci pour la réexplication. Je sais bien que vous êtes donc de la plateforme mise en onde, nous on dirait. Régie vidéo, nous avons Salim Odjouara. Réalisation, Ousmane Djadje Touré. Et présentation, Seydou Fomba. On vous retrouve demain pour un autre sujet. À demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba. Et de Wani Wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halou Dmoundi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.